Alors, on dit quoi?
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Plus de 3 milliards de personnes confinées sur la planète. Bon nombre de pays ont adopté le confinement comme réponse à la propagation du Covid-19. Les habitants de la ville de Wuhan, en Chine, ont été les premiers à être confinés depuis le début de l'épidémie. Aujourd'hui, ils en sortent et le reste du monde s'y plonge. La France, l'Italie, l'Espagne, plusieurs pays sont en confinement en Europe. Qu'en est-il sur le continent africain? Certains comme l'Afrique du Sud sont confinés, d'autres, la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, ont opté pour l'instauration de couvre-feu et la mise en quarantaine des villes touchées par le coronavirus. Abidjan, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso en font partie. N'est-ce pas là un début de confinement? Comment en Afrique les jeunes pourraient-ils s'adapter à ce nouveau mode de vie quand on sait que les établissements d'enseignement et les lieux de loisirs sont fermés? Pour ceux qui n'y sont pas encore, comment appréhendent-ils le confinement? Vous écoutez Alors on dit quoi? Ouattisera, on y va.
Alors on dit quoi? Fenaï Traoré.
Nous commençons par le pays de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud est pour le moment le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique, avec plus de 1500 cas identifiés selon les statistiques nationales, des chiffres qui seraient largement sous-estimés. Les autorités envisagent donc des tests massifs. L'Afrique du Sud, qui n'est pas en capacité sanitaire et économique pour gérer une épidémie, est sous confinement depuis 10 jours. Inquiétude, doute, mais aussi optimisme. Notre correspondante Anobla Aka est allée interroger médecins et jeunes sud-africains sur la situation actuelle dans le pays.
Face à l'expansion du coronavirus en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a décrété l'état d'urgence en imposant à ses 57 millions de concitoyens un confinement de 21 jours, débuté vendredi 27 mars à minuit. Avec plus d'un millier de cas, le pays le plus industrialisé d'Afrique est de loin le plus touché du continent depuis l'apparition du Covid-19 en Chine en décembre dernier. Une situation sanitaire préoccupante, d'après le médecin et directeur de l'Institut de santé Gateway à Pretoria, Dr Cohen Ilou.
Je pense que les mesures prises par le gouvernement sont nécessaires pour obliger les gens à rester chez eux. Si les gens ne restent pas à la maison, ce sera la crise en Afrique du Sud. Ce sera difficile pour le pays d'avoir des aides financières. Le problème en Afrique, c'est que nous n'avons pas et ne faisons pas assez de tests. Nous n'avons pas l'argent, les infrastructures de santé ne sont pas assez bonnes. Nous n'avons pas assez de centres de santé. Nous n'avons pas assez d'infrastructures, nous n'avons pas assez de lits, nous n'avons pas assez d'appareils respiratoires. Je sais que l'Afrique du Sud élabore des plans pour construire des hôpitaux comme ils le font en Angleterre et en Europe, mais personnellement, je pense que l'Afrique a besoin de s'unir et de trouver une réponse commune au coronavirus, car on ne peut pas agir de façon isolée. Nous ne pourrons pas combattre le corona sans nos voisins et la collaboration du Zimbabwe, du Mozambique et même du Malawi et de la Zambie.
Cette situation de crise a de lourdes répercussions, notamment sur les populations les plus pauvres du pays.
Il y a des choses en Afrique qui sont plus importantes que le virus. Ce sont la pauvreté et la survie. Le virus n'est pas une priorité en ce moment pour les populations. Si vous avez faim, vous avez faim. C'est ça la problématique en Afrique. Beaucoup de gens survivent au jour le jour parce qu'ils sont dans l'économie informelle. Ils vendent des légumes ou des fruits dans la rue. Donc, dans une situation de confinement, ils n'ont plus aucun moyen d'avoir un revenu. Oui, le gouvernement est en train de mettre en place des plans pour s'assurer que tout le monde reçoive un peu d'aide et des organisations fournissent de la nourriture aux personnes qui n'ont pas d'argent. Mais en ce qui concerne l'économie, il sera difficile pour l'Afrique du Sud de trouver des aides financières.
Pour dissuader ceux qui sont tentés de sortir, la police et l'armée qui ont été déployés dans les rues peuvent sanctionner d'une amende et ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 6 mois. Toutefois, les mesures de confinement sont difficilement respectées, notamment dans les townships et milieux ruraux. C'est ce que constate Nokwanda, habitante d'un township à la périphérie de Durban. Le premier jour du confinement, on avait l'impression que les gens prenaient ça pour des vacances. Là où je vis, quand le confinement a commencé, c'était comme si c'était le nouvel an. Les gens faisaient le décompte. J'ai même entendu des feux d'artifice. Les gens qui vivent dans les townships ne sont pas bien informés. Ils sont juste bombardés d'infos à propos du corona à la télévision et dans le journal. Mais personne n'a pris le temps de s'asseoir et d'expliquer à la population, aux gens qui vivent dans les townships, ce qu'est un virus, comment on attrape le virus, qu'est-ce que la distanciation sociale, etc. L'Institut de santé Gateway tente de parer ce manque d'accès à l'information via des campagnes de sensibilisation SMS pour les personnes n'ayant pas de smartphone ou de données Internet.
C'est notre travail d'éduquer à ce sujet. Les gens ne sont pas informés. Le problème du gouvernement et celui de l'Afrique dans son ensemble, c'est que beaucoup de gens n'ont pas accès à Internet. Beaucoup de gens n'ont pas de smartphone ou d'ordinateur portable. Beaucoup de gens ne sont pas connectés pour avoir des informations sur la situation. Ce que nous faisons, c'est essayer de faire passer le message à ces personnes qui n'ont pas Internet et qui n'ont pas d'argent pour accéder aux données ou à Internet pour obtenir l'information. Le projet commence par envoyer des messages SMS gratuits et traduits dans différentes langues aux populations de toute l'Afrique afin qu'elles puissent recevoir le message et s'informer sur le virus.
Toutefois, il y a une prise de conscience sur les enjeux sanitaires de cette crise, notamment chez les jeunes. C'est le cas de Nokwanda. Je suis devenue obsessionnelle. Je suis obsédée par le lavage des mains, la désinfection des mains, avant et après quoi que ce soit. Et les gens autour de moi sont aussi très vigilants et aussi proactifs quand il s'agit de se laver les mains plus fréquemment. Le confinement, c'est aussi s'adapter à un nouveau quotidien. Kani Silekani est étudiante. Les écoles sont fermées. Pour certains d'entre nous, nous devons faire des devoirs pratiques depuis chez nous. Et c'est vraiment difficile de faire ça à la maison. Je vais passer mes journées à la maison, à me détendre, à regarder la télévision, à lire un livre, à faire des exercices en ligne et beaucoup manger. Pour Tim, 25 ans, le confinement n'est pas chose facile.
C'est vraiment dur pour les jeunes et quelqu'un comme moi. Car nos valeurs sont principalement basées sur l'interaction sociale. Perdre tout ça à un moment pareil est vraiment très très compliqué. Je crois que je suis en train de devenir fou à juste rester chez moi et à ne rien faire. Mais bon, je vois ça comme un sacrifice nécessaire. Je travaille dans un café, je suis serveur, je viens du Zimbabwe et je n'ai pas pu rentrer auprès de ma famille car les frontières sont fermées. J'ai dû rester ici. Financièrement, c'est très compliqué car je n'ai plus d'entrée d'argent vu que je ne peux pas travailler et que je dois rester chez moi. Je prie et j'espère juste que ce confinement se terminera vraiment le 16 avril, car je ne pense pas que financièrement je pourrai survivre un mois de plus.
Nokwanda, quant à elle, tente de prendre cette situation avec philosophie. Je peux m'asseoir et communiquer beaucoup plus avec les membres de ma famille, construire un lien plus personnel avec eux, car je suis honnêtement coincée avec eux dans la maison. Je pense aussi que cette situation est une manière de donner aux gens et au monde une pause, un break. C'est juste une façon de mettre les choses à plat pour tout le monde et de dire aux nations qu'on est tous ensemble et que nous sommes reconnaissants d'être en vie. La période de confinement se terminera officiellement jeudi 16 avril en Afrique du Sud. Il se peut toutefois qu'elle soit prolongée de quelques semaines.
Après avoir écouté ce reportage en Afrique du Sud, nous recevons au téléphone Mohamedou Fadel Diop. Bonjour.
Bonjour, Madame Traoré.
Vous êtes chargé de recherche au think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, Wati, basé à Dakar, au Sénégal. Vous avez suivi avec nous le reportage. Partagez-vous certains points de vue que nous avons entendus?
Oui, absolument. Je partage entièrement plusieurs des points de vue qui ont été partagés. La première chose, c'est la nécessité de faire rester les gens chez eux. Je pense que nous ne reviendrons jamais assez sur cette nécessité. Les gens doivent comprendre qu'il est impératif et ça peut sauver des vies de rester chez soi. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment faire comprendre cela aux gens? C'est une question, c'est une problématique.
Oui.
Il y a une responsabilité de l'État, bien entendu, mais l'État ne peut pas le faire seul. Il faut qu'on l'accompagne à faire respecter cela.
Mais vous avez entendu dans le reportage l'un des intervenants qui disait qu'en Afrique, les gens sont plus préoccupés par la faim pour s'alimenter. Pour cette raison, ils bravent la restriction de sortie.
Oui, absolument. La première chose, c'est que les gens sont beaucoup plus intéressés par le fait de survivre au jour le jour En Afrique de l'Ouest, par exemple, nous sommes dans une région où la majorité des pays, le secteur informel pèse autour de 90%.
Oui.
Donc, ce sont des gens qui doivent chaque jour sortir pour acheter à manger, pour nourrir leur famille, leurs enfants, leurs parents, et décréter un confinement ou bien décréter des mesures afin qu'ils restent chez eux doit être accompagné d'autres mesures pour prendre en compte la vulnérabilité de ces personnes, les accompagner, les donner des denrées nécessaires pour qu'ils puissent survivre en ce temps.
Mais notamment, tout comme en Afrique du Sud, dans beaucoup de pays en Afrique et en Afrique de l'Ouest, on sait qu'il y a des quartiers populaires, des bidonvilles, et la plupart du temps, les problèmes tournent autour des problèmes sanitaires. Comment demander à ces gens de rester chez eux quand il y a des problèmes sanitaires, quand ils ont des problèmes de vivre?
Je pense que l'information est une chose qui est très importante. Il faut partager l'information et il faut que tout le monde la comprenne au même niveau. Alors, on demande aux gens de rester chez eux, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent le faire. Ils
Oui.
ne comprennent pas combien de temps ça va durer. Ils ne comprennent pas ce que signifie un état d'urgence, par exemple. Il faut expliquer ce qu'il en coûte si on ne reste pas chez soi. C'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il faut sensibiliser davantage en passant par les organisations qui ont l'habitude de travailler dans des milieux défavorisés, dans les quartiers qui sont des bidonvilles ou bien dans la banlieue. Il faut utiliser les gens qui savent parler, qui ont une expérience dans ce genre de mission pour faire marcher les choses.
Oui, par exemple, des leaders religieux, des chefs de quartier.
Exactement, exactement. L'un des premiers réflexes des États, maintenant qu'ils ont un pouvoir absolu afin de faire face au coronavirus, serait d'utiliser seulement les appareils de l'État afin de faire comprendre le danger de cette crise-là. Mais il faut utiliser aussi des organisations, des associations de la société comme les délégués de quartier, les associations sportives et culturelles. Il faut aussi utiliser les ONG qui ont l'habitude de parler à ces populations pour avoir un impact beaucoup plus important. On a vu avec la crise de Ebola, par exemple, que si les citoyens n'ont pas une grande confiance envers l'État, ils vont tout simplement refuser d'accepter les mesures qui ont été proposées. Donc il faut que ces citoyens-là puissent se reconnaître. Il faut que ces citoyens-là puissent parler avec des gens en qui ils ont confiance. Et généralement, ce sont des gens qui se trouvent dans leur entourage.
Oui, faire un travail d'information. Pourquoi les autorités n'ont pas recours, par exemple, aux crieurs publics? On sait que ce sont des gens qui passent les informations dans les quartiers, dans les pays africains, en Afrique de l'Ouest. Les gens connaissent beaucoup plus les crieurs publics. Quand ils passent une information, tout le monde les écoute. Pourquoi on n'a pas recours à ces personnes pour pouvoir informer les gens?
Oui, c'est une question à se poser. Il est vrai qu'au Sénégal, dans les endroits où j'ai été en particulier, ce n'est pas une méthode qui a été qui est très en vogue. Il faudrait que cette méthode puisse être utilisée, mais pas la seule, hein. Il faut utiliser toutes les méthodes qui sont à notre disposition. La technologie aussi est un moyen de pouvoir informer, de pouvoir sensibiliser. On sait que dernièrement, le téléphone portable, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le téléphone portable en Afrique. Il y a de plus en plus d'Internet, de plus en plus d'électricité. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser la technologie.
Oui.
Et en complément des autres méthodes comme celle des crieurs publics que vous avez citées.
Dans Alors on dit quoi, nous donnons aussi la parole à nos auditeurs. Que vous soyez confinés ou en quarantaine, on vous reçoit sans que vous ne bougiez de chez vous. Nous souhaitons la bienvenue à Fanta Moïda qui est blogueuse et qui nous appelle de Bamako. Bonjour Fanta.
Bonjour, comment ça va Madame Traoré?
Avez-vous peur du confinement?
En tout cas, ça fait peur quand même, en quelque sorte.
Pourquoi?
Mais c'est quelque chose de nécessaire.
Pourquoi ça fait peur?
Parce que on se dit que ici à Bamako, surtout au Mali, et il est vraiment difficile de dire qu'on peut faire un confinement ici au Mali. Déjà, la majorité de la population n'a pas les moyens. Et on demande comment est-ce que l'État va assister cette population.
Oui, voilà. Mais au Mali, pour l'instant, ce n'est pas le confinement.
Oui, mais on peut dire que c'est en voie. Déjà, il y a quelques communiqués concernant les horaires de travail et autres. Donc, les gens se préparent à un éventuel confinement quand même.
Mohamedou Fadel Diop, vous venez d'écouter notre auditrice. Vous pensez que dans les pays en Afrique de l'Ouest, les populations devraient déjà commencer à se préparer à un éventuel confinement?
Écoutez, on parle beaucoup de confinement. C'est un vocabulaire qui est utilisé partout.
Oui.
Et souvent, je me demande si les gens prennent le temps de se poser la question, qu'est-ce que ça signifie un confinement? Ce qui est nécessaire, en tout cas, si on doit aller vers cette mesure de confinement, c'est de savoir quelle forme ce confinement-là doit prendre en Afrique de l'Ouest. S'il y a un confinement, à quoi les citoyens doivent s'attendre et comment ils doivent faire face à cela. Il est clair que, par exemple, les mesures, si on prend des mesures de confinement, ça ne sera pas la même chose que ce qui se passe en Chine, où l'État, qui est assez autocratique, a pris des mesures assez fortes. Ça ne sera pas la même chose que ce qui se passe en Occident. Il faut trouver qu'on puisse adapter les solutions qu'on va mettre en place, faire preuve de créativité pour qu'elles puissent être reçues au mieux par les citoyens.
Fanta Moïda, avez-vous une question pour notre invité?
Je dis déjà tout ce que je pense, donc je continue de l'écouter alors.
Merci beaucoup de nous avoir appelés de Bamako et nous recevons Kalem Mwanda, étudiant à Brazzaville. Bonjour Kalem.
Bonjour.
Vous avez quitté Brazzaville dès l'annonce du confinement, racontez-nous.
Oui, donc j'ai appris le discours fait par le président et ça a annoncé les mesures de confinement, donc du coup, ce n'est pas vraiment le Covid-19 qui m'a fait quitter Brazzaville, ce sont des mesures là, parce qu'il n'y a pas l'accompagnement. Déjà, je suis à Brazzaville, les parents sont à Pointe-Noire, donc je ne pouvais pas y appliquer les mesures. Donc c'est pourquoi j'ai voulu rentrer à Pointe-Noire, rester avec les parents si possible.
Vous avez eu peur de rester seul?
Oui, ce n'est pas vraiment le virus, mais c'est le confinement là.
Et qu'est-ce que cela change pour vous de ne pas rester confiné à Brazzaville et d'être en famille?
Non, il y a une très grande différence parce que là-bas, je suis étudiant, donc je ne peux pas avoir, disons, les possibilités de faire des provisions comme il faut chez les parents. Par contre, chez les parents qui détiennent, disons, le financement, donc ici, là, il y a presque les conditions pour qu'il y ait un confinement.
Oui, et ça vous a fait peur dès que vous avez entendu parler, vous avez écouté l'annonce du gouvernement?
Et tout à fait, ça a vraiment fait peur parce que la majorité des étudiants n'ont pas la bourse, donc nous dépendons des parents, une fois il n'y a pas d'activité, donc nous également nous serons bloqués là-bas. Donc oui. La majorité de mes amis sont rentrés.
Nous avons un autre étudiant avec nous, Ibrahima Diallo, lui il est étudiant burkinabé à Paris. Bonjour Ibrahima.
Oui, bonjour Madame Traoré, déjà merci de me permettre de participer à l'émission.
Vous venez d'écouter le témoignage de Kalem qui est étudiant à Brazzaville. Il a dû quitter Brazzaville pour rejoindre sa famille. Vous, j'imagine que ce n'est pas votre cas. Vous avez dû rester sur place à Paris.
Bah oui, malheureusement, ce n'est pas mon cas. Et franchement, je l'envie beaucoup. En fait, moi, j'ai été plutôt optimiste au début. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc là, c'est le regret. Mais là, on est obligé, avec le confinement, de faire avec.
Vous auriez aimé retrouver votre famille au Burkina Faso?
Effectivement, j'aurais bien aimé quand même rentrer au pays pour retrouver la famille et tout. C'est vrai qu'actuellement au Burkina Faso aussi, le coronavirus est en train quand même de faire son bonhomme de chemin. Mais voilà, c'est encore mieux quand on est en famille parce qu'on se sent plus joyeux.
Oui. Et comment vous le vivez-vous? Vous avez d'autres camarades étudiants avec vous?
Je dirais que la camaraderie actuellement ne se fait pas trop sentir ici parce que là, tout le monde est confiné, chacun oui. est chez soi.
En résidence universitaire.
En résidence universitaire. Et ça fait que c'est d'autant plus compliqué pour nous, les étudiants étrangers. Parce que généralement, vous savez, les étudiants étrangers, ils ont quand même certaines activités où ils se retrouvent et tout ça, c'est plus permis. Donc vraiment, c'est la solitude que nous vivons en ce moment.
Et comment l'appréhendiez-vous quand vous avez entendu parler du confinement?
Alors la première semaine, j'étais toujours assez optimiste, mais j'ai quand même anticipé en faisant quand même des provisions. Je suis allé, je fais quand même quelques achats qui m'ont permis de résister aux deux premières semaines. Alors après, il a fallu aussi que je fasse quand même une attestation de sortie pour faire d'autres provisions. Mais il faut dire vraiment que ce confinement a chamboulé quand même notre quotidien, je dirais le quotidien de presque tous les jeunes de la résidence, parce que voilà, on est obligé de faire les choses autres que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et généralement, pour nous, les étudiants, ça chamboulait ce quotidien sur, sur trois aspects principaux. Hein, trois aspects principaux, notamment la formation, le niveau de la formation qui est devenu quand même, qui est faite de façon virtuelle, qui n'est plus faite de façon physique. Et ça, on a l'impression que notre formation, elle est bâclée, mais aussi la formation au niveau de l'expérience professionnelle, parce qu'on avait tendance quand même à faire certaines activités, aller à la rencontre de plusieurs ONG, de plusieurs entreprises.
Le travail sur les terrains a été suspendu.
Justement, le travail sur le terrain a été suspendu, et ça, c'est vraiment déplorable pour des étudiants, en tout cas, qui doivent nécessairement avoir aussi une expérience sur le terrain. Mais aussi d'autres aspects comme l'économie, où on ne peut plus aller travailler. Oui. Donc ça fait que c'est compliqué.
Ça réduit les revenus des étudiants.
C'est ça, le revenu et donc les moyens de subsistance, surtout pour nous les étudiants étrangers. Le troisième aspect, c'est notamment la solitude, comme je vous disais en fait.
Mouhamadou Fadel Diop, vous venez d'écouter ce témoignage de deux étudiants, l'un sur le continent africain et l'autre en Europe, deux témoignages assez différents. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
J'aimerais d'abord revenir sur le témoignage de Kalem. Ce qu'il dit est intéressant dans la mesure où ces derniers temps, on a entendu beaucoup d'États africains déclarer qu'ils vont mettre en place des plans d'urgence pour aider les populations vulnérables. Mais jusqu'à présent, ces plans d'urgence n'ont pas été mis en œuvre, bien ne sont pas réalisés sur le terrain. Et en attendant, les populations souffrent, beaucoup de personnes souffrent. Et le premier réflexe, là encore, pourrait être pour certains, comme Kalem, de rentrer chez eux.
Oui.
Mais ça pose un problème particulier, surtout lorsqu'il s'agit des questions de mobilité interurbaine. Parce que beaucoup de personnes vont décider de rentrer chez eux, là où les choses semblent plus sûres, où il y a moins de dépenses, mais ils peuvent involontairement propager la maladie dans les zones rurales.
Oui, en se déplaçant.
Alors que pour l'instant, on a vu que la crise affectait spécifiquement ou bien dans une grande partie des milieux urbains.
Ibrahima Diallo, vous avez une question à poser à notre invité?
Peut-être une seule question. Je voudrais savoir, justement, lui en tant qu'expert, est-ce qu'il a quand même des conseils qu'il peut donner aux étudiants pour réussir leur année malgré ce contexte si particulier?
Mouhamadou Fadel Diop, des conseils pour les étudiants dans ce contexte?
La meilleure chose, encore une fois, on n'est pas obligé, c'est de renforcer ses capacités c'est d'abord de suivre les cours en ligne. De suivre les cours en ligne et d'essayer de maîtriser tous les outils qui permettent de travailler en ligne. Ce sont des outils comme Zoom, comme Slack, toutes ces compétences-là dont les étudiants auront aussi besoin en milieu professionnel, parce que on a vu avec cette crise-là que les entreprises sont en train de changer, de s'adapter, de vouloir mettre en œuvre encore plus de télétravail. Donc c'est le moment pour les étudiants d'essayer d'acquérir ces compétences-là pour faire face à l'après-crise.
Merci pour ce petit conseil. Merci Ibrahima Diallo et merci à Kalem Mouanda de nous avoir appelés. Dans certaines villes, c'est le confinement. Pour d'autres, comme Abidjan, c'est l'isolement. La ville est isolée du reste du pays depuis une semaine. Et cela pour protéger les autres villes de la propagation du coronavirus. Comme dans la plupart des villes africaines, les populations vivent majoritairement du secteur informel, les petits commerces, les travaux manuels ou les vendeurs ambulants. Avec les différentes mesures pour freiner le coronavirus, les activités sont au ralenti. Et s'il devait y avoir un confinement total, la plupart des travailleurs du secteur informel risquerait de se retrouver sur le carreau. Mais une association de bénévoles a décidé d'aider les familles les plus vulnérables par ce temps difficile. Ça sera après Manu Gallo et Bootsy Collins.
on the brain. Contamination driving me insane. The more I drink it, the less I feel. Ah, the bigger the headache, the bigger the pill, baby.
Abidjan Groove dans Alors on dit quoi, une pause musicale qui fait du bien. Nous restons à Babi pour accueillir Kalen Fiemaye, membre des bénévoles de premier secours. Pour ceux qui ne savent pas, Babi, c'est comme ça qu'on appelle Abidjan dans le jargon local, le Nouchi. Bonjour Kalen.
Bonjour.
Alors Kalen, vous êtes membre des bénévoles de premier secours qui se mobilisent en collectant des vivres. Pourquoi cette initiative?
Bon, c'est une initiative que nous faisons déjà depuis quelques temps, même avant le confinement.
Oui.
Parce que nous avons remarqué que nos populations ici ont pas mal de soucis. Donc on essaie de contribuer comme on peut pour pouvoir aider les personnes les plus vulnérables.
Oui, les populations ont pas mal de soucis, comme quoi par exemple?
C'est-à-dire qu'au niveau du travail, c'est compliqué. Beaucoup vivent de travail informel, on va dire, et les revenus, c'est pas ça, et avec ce qui se passe aujourd'hui, bon, c'est compliqué d'être confiné quand on n'a pas la possibilité d'être dehors pour pouvoir trouver de quoi nourrir déjà soi-même et sa famille.
Oui, mais Abidjan n'est pas encore confiné, mais vous vous préparez au cas où. Comment vous collectez les vivres?
Bon, nous, on a une manière particulière de fonctionner, c'est-à-dire qu'on lance un appel aux dons. Et que tout le monde donne ce qu'il peut donner. C'est-à-dire que chacun donne un sac de riz, une bouteille d'huile, une bouteille d'eau, du savon. Chacun donne ce qu'il peut. Et quand nous, on récupère tout ça, on réussit à faire des cartons quand même assez garnis pour chaque famille. Et on va déposer dans chaque municipalité pour distribuer.
Et justement, ces familles-là, comment vous procédez pour les identifier, les familles qui doivent en bénéficier?
Ces familles aussi, c'est simple, on lance un message aux familles les plus vulnérables, donc oui, qui se signalent sous le poste, parce que nous, tout se fait sur Facebook. Et nous agissons spécialement sur Facebook. Donc on lance cet appel en demandant aux personnes qui ont des problèmes de se signaler. Donc quand chaque famille se signale, il faut savoir que nous avons des bénévoles sur toute l'étendue du territoire. Dans n'importe quel quartier d'Abidjan, oui, commune, village, on a des bénévoles. Donc avec les familles qui se signalent, on envoie des bénévoles dans, par exemple, si c'est à Abidjan, dans la commune d'Abobo, on envoie des bénévoles qui sont à Abobo vérifier que ces familles-là vraiment vivent dans des situations précaires. Oui. Ont vraiment besoin de...
Vous menez une petite enquête, en quelque sorte.
Exactement. Parce que bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent de la situation. Donc, on vérifie vraiment que ces familles sont dans le besoin. Et une fois que c'est fait, quand on a recensé ces familles, on peut maintenant leur donner ce qu'on a récolté pour elles.
Et après ça, comment ça se passe, la distribution? Vous rendez visite à chaque famille ou il y a des lieux de distribution, quand on sait aujourd'hui que c'est quand même interdit de se déplacer, de faire des regroupements?
Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est que quand on finit de récolter et que les familles sont recensées, on dépose la liste déjà avec les numéros de téléphone des familles dans chaque mairie, de chaque commune. Et c'est à la mairie qu'on va déposer les dons.
Oui.
Donc maintenant, c'est à la mairie de commencer à faire la distribution. Bien évidemment, avec quelques bénévoles qui les accompagnent pour les aider sur le terrain.
Je vois que vous êtes très bien organisé au sein des bénévoles du premier secours. Oui. Merci, Kalen, pour ce témoignage et bon courage à tous vos bénévoles pour cette collecte.
Merci, bien, on en a besoin, c'est gentil. Et bon courage et bonne journée à vous également.
Merci beaucoup. Mohamed Fadel Diop, la Côte d'Ivoire a pour le moment décidé d'isoler la seule ville d'Abidjan. Ce n'est pas du confinement, mais c'est un système qui pourrait mieux convenir aux pays africains, faire un ciblage par ville, une sorte de quarantaine.
Oui, oui, je pense que c'est une solution qui peut être envisageable pour plusieurs pays africains. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on parle de confinement, il faut savoir quelle forme elle doit prendre dans notre société. Et ce qui est important à faire, c'est d'identifier les zones à risque et de voir comment les maîtriser. En Afrique, nous devons beaucoup miser sur la prévention parce que nous n'avons pas les moyens de faire face si la situation se dégradait considérablement. Donc, cette approche-là, de voir quelles sont les mesures les plus adaptées pour faire face à la crise est importante. D'autant plus que si on prend des mesures disproportionnées, elles risquent de ne pas être respectées et cela risque de créer une certaine défiance envers l'autorité publique. Donc il est important de vraiment calibrer les mesures à prendre.
Et bien avant cela, vous parliez de mesures d'accompagnement pour accompagner les populations si jamais elles doivent être confinées. Et là, on voit qu'il y a une solidarité qui est en train d'être mise en place avec ce groupe de personnes, cette association, les bénévoles de premier secours. Qu'en pensez-vous?
Oui, je trouve ça formidable. J'aimerais d'ailleurs féliciter ce groupe de personnes et toutes les personnes qui sont dans cette dynamique-là. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on parle beaucoup de distanciation sociale,
oui,
mais une chose qui va aider à faire face à cette crise, surtout en Afrique, c'est de créer des réseaux de solidarité. Elles sont bienvenues dans toutes les sphères de la société. Il faut qu'on puisse prendre soin les uns des autres afin de faire face à la crise, parce que l'État ne peut pas tout faire, évidemment.
L'État ne peut pas tout faire et c'est là qu'il faut mettre à contribution peut-être des figures auxquelles les populations s'identifient.
Oui, carrément. Il faut tendre la main et établir des partenariats avec des personnes, que ce soit des entités publiques ou bien des entités privées, sur lesquelles les citoyens se reconnaissent. Ça peut inclure des ONG, des groupes et des institutions religieuses, des groupes de jeunes, des groupes de femmes, des groupes de microfinance. Il faut que toutes les personnes qui sont dans la communauté puissent être impliquées.
Oui.
Et il faut choisir des leaders de confiance envers qui les populations ont vraiment de la confiance.
Tout à l'heure, on écoutait le témoignage de Kalen Fiemaye d'Abidjan. Ils travaillent, eux, avec la mairie. Et dans ce cas-ci, dans les pays africains, les autres pays, dans les quartiers, dans les villes, comment on pourrait mettre à contribution tout le monde pour pouvoir organiser une sorte d'approvisionnement des populations qui n'ont pas les moyens dans les quartiers, par exemple, si les marchés doivent être fermés, notamment comme c'est le cas au Burkina Faso?
Pour moi, ce que je pense, c'est qu'il faut carrément confier certaines missions aux personnes qui savent mieux le faire. Donc, il y a des ONG, il y a des associations qui sont mises en place dans la majeure partie de ces pays-là et qui ont une expérience vraiment certifiée des capacités humaines, des connaissances, des communautés très particulières. Donc, il faut d'abord se baser sur ces ressources-là, avant tout, pour acheminer l'aide qu'on peut donner aux populations. C'est d'autant plus important que l'aide qu'on met en place dans le cadre de cette crise du coronavirus est assez singulier parce que la transmission de cette maladie est très rapide. Donc, il faut qu'on puisse faire confiance à des personnes qui ont une expérience avérée là-dessus.
Mouhamadou Fadel Diop, restez avec nous parce que nous avons des auditeurs qui nous attendent tout de suite. C'est Rosalie Kama du Sénégal qui nous appelle. Bonjour Rosalie.
Allô, bonjour.
Bienvenue dans Alors on dit quoi ? Alors au Sénégal, c'est un couvre-feu. Est-ce que vous vous préparez déjà, au cas où, vous préparez déjà un confinement, même si c'est un couvre-feu pour l'instant ?
Oui, ici au Sénégal, on est au couvre-feu, mais on se prépare davantage au confinement. C'est pas sûr, on sait bien qu'un jour, on sera confiné, donc on se prépare.
Comment vous vous préparez alors ?
Par exemple, on part dans les centres commerciaux, on achète tout donc ce qu'on peut avoir besoin, par exemple l'osine, l'huile, les denrées alimentaires, le lait, le sucre, tout ça là. On achète tout ça et on met dans on stocke dans les maisons. Oui. Mais il y en a d'autres aussi qui n'ont pas les moyens. Donc l'État est en train de faire des dons de riz, du sucre, du savon et on les distribue ça.
Et là, il y a des restrictions de déplacement. Vous, qu'est-ce que vous faites pour vous occuper?
Moi, à mon avis, je suis à la maison, je ne fais rien, donc je m'occupe des fois, je lis, je danse aussi, tout ça là. Oui. Je m'occupe pour ne pas être ennuyée là.
Vous étudiez ou pas?
Oui, je suis étudiante.
Et vous n'avez pas accès à la formation en ligne?
Non, non.
Pour l'instant, ce n'est pas encore développé?
Non, non, on ne nous a rien encore dit, on ne nous a pas prévenu.
Mouhamadou Fadel Diop, vous avez entendu ce témoignage de notre auditrice Rosalie du Sénégal. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça?
Alors, il est vrai que dans plusieurs pays, l'enseignement en ligne fait défaut. Mais au Sénégal, il y a certaines initiatives qui sont en train d'être mises en place. Par exemple, pour ce qui s'agit de l'enseignement secondaire, les cours sont dispensés à la télévision nationale. Les étudiants, les élèves peuvent regarder les cours directement à la télé.
Oui.
Mais il faut aussi que les personnes puissent maintenant, plus que jamais, recourir à leur inventivité pour essayer de faire face. Et pour cela, il y a des cours en ligne qui sont disponibles, qui ne suivent pas les curricula formels de l'ancienne université, mais des choses comme Google Classroom, des choses comme plusieurs sites internet où on peut avoir des ressources en ligne. Les étudiants doivent se ruer là-dessus, les élèves doivent se ruer là-dessus maintenant que l'enseignement en ligne pose problème dans plusieurs pays.
Oui, qu'ils n'attendent pas des initiatives venant forcément des autorités.
Exactement.
Alors, on dit quoi ? Penaï Traoré.
Le monde entier se mobilise sur le coronavirus. Des anonymes, des personnalités, des artistes, tous mettent la main à la pâte. Et tout de suite, j'ai une surprise pour vous. Et c'est mon coup de cœur de la semaine, mon coup de cœur musical. Je vous propose de l'écouter.
Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps. Virus qui tue. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus qui tue. La connerie est réelle, on ne joue plus. La planète en confinement, qui l'aurait cru? Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas. Que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais les églises sont fermées, les mosquées se sont vidées. Les restos sont confinés, tous les bars sont sous-scellés. Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc. Que Mamadou le guérisseur a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique. Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique. Mieux vaut prévenir que mourir dans ce contexte. Protéger c'est secourir les autres, faire le bon geste. Oh, donc lave-toi les mains très régulièrement au savon. Avant de tousser, mets le coude en avant. Oh, utilise un mouchoir à usage unique. Oh, en cas de contagion, reste chez toi sans panique.
Je t'aime bien mais salue-moi avec ton coude. Si je refuse, faudra pas que tu me boudes. Même à ce qu'on ait le nouveau style est toxique. Que ton meilleur ami soit ton gel hydroalcoolique. Monsieur Corona, qui es-tu?
Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu?
Le monde est dans des beaux draps. Virus qui tue.
Où est la, qui es-tu?
Monsieur Corona, qui es-tu?
Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu?
Le monde ne comprend pas ce virus qui tue.
Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu?
En cas de contamination, ne paniquez pas. Restez chez vous, appelez votre médecin ou le numéro vert.
Monsieur Corona, alerte Corona, c'est la chanson, le titre sorti par Smarty, le rappeur burkinabé. Il s'est engagé avec l'UNICEF dans la prévention au coronavirus. Bonjour Smarty.
Bonjour.
Pourquoi cette chanson, alerte Corona?
Bon, comme son titre le définit, c'est une alerte par rapport au comportement des uns et des autres. Donc, on vit dans un environnement où on écoute un peu les gens parler, on entend ce qui se disait sur la maladie depuis le début, lorsqu'il faisait son entrée vraiment en Afrique. Donc, il était urgent pour nous d'écrire quelque chose pour prévenir les gens de par notre position et leur dire qu'il y a tellement de rumeurs, mais qu'il faudrait faire attention et adopter les bons gestes.
Et donc, vous avez sorti ce titre pour faire de la prévention, pour dire
Exactement. Que
le Covid-19 est dangereux pour tout le monde, adultes, colosses, enfants et jeunes. Personne n'est épargné. C'est aussi ça le
Exactement.
Message.
Exactement. Voilà, c'est ça le message. C'est pas une maladie qui, c'est pas pour les riches. C'est pas pour, ça ne tue pas que les blancs. Ça, le virus ne résiste pas. Le virus ne résiste pas au soleil. C'est plein de choses qu'on entendait. Et voilà, quand on a
toutes ces rumeurs.
Toutes ces rumeurs-là, et quand on est artiste et qu'on sait qu'on peut avoir une petite influence, c'est l'occasion pour nous d'être utile, autrement que chanter uniquement des chansons pour plaire aux gens. Donc il était urgent d'écrire cette chanson-là. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul engagé sur cette voie-là. Hein. Il y a beaucoup de personnalités ici au Burkina Faso, beaucoup d'artistes. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, contribue à faire passer le message et c'est assez bien. Ce n'est qu'unis et mobilisés qu'on pourra véritablement arriver à faire reculer cette pandémie-là.
Et quel appel lancez-vous donc aux jeunes par rapport à cette crise sanitaire?
L'appel qu'on lance aux jeunes, c'est véritablement d'écouter, de rester éveillé parce que pour une fois, elle concerne tout le monde. On voit toutes ces personnalités qu'on a perdues. Là, hier, c'est le papa Pape Diouf qui nous quittait. Il n'y a pas longtemps, c'était
Manu Dibango,
père à leur âme. Mais bon, c'est pour dire que c'est sérieux et qu'on arrête de dire que c'est une maladie qui... La maladie ne trie pas les gens qu'elle doit, auxquels elle doit s'attaquer. Donc aux jeunes, je dirais d'être sérieux, d'avoir la bonne attitude parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie qu'on est en train de combattre justement pour sauvegarder les futures générations. Donc ils sont les premiers qui sont concernés et ils doivent être en avant-garde de ce combat-là en ayant la bonne attitude, en ayant le bon comportement. Donc c'est le message qui est important, qu'il était important de faire passer surtout aux jeunes.
Et autour de vous, vous voyez qu'il y a un changement dans les comportements?
Oui, en tout cas, moi, aujourd'hui, je regarde dans mon entourage, effectivement, les gens changent. Et maintenant, il faut faire attention parce que même dans la façon de communiquer, on veut bien dire de faire attention, mais en même temps, on ne veut pas plonger la population dans la psychose. Donc,
oui.
Voilà, aujourd'hui, on se trouve confronté à plein de difficultés parce qu'aujourd'hui, même nos gouvernements sont aujourd'hui dans une sève de conflits, de difficultés. Ils ne savent pas lequel des confinements appliquer parce qu'aujourd'hui, vous avez des populations qui vivent au jour le jour, qui aujourd'hui, on sait que si on confine totalement, est-ce qu'on doit confiner totalement les populations? Est-ce qu'on doit aller de façon légère? Est-ce qu'on aller de façon progressive? Je pense qu'on est dans un gros dilemme, mais je pense que, comme je l'ai dit, hein, depuis le début, c'est vraiment en étant unis, en étant forts, qu'on va véritablement arriver à déjouer tous les pronostics qui donnent le continent africain comme celui qui va perdre beaucoup de gens.
Qui va beaucoup en pâtir.
Voilà, donc c'est un défi pour nous de par notre attitude de montrer que ces pronostics-là, on peut faire mentir les pronostics. Et nous, on est au charbon, on est sur le terrain, on essaie de faire passer le message comme on veut. Sinon, autour de moi, oui, les attitudes ont commencé à changer. Les gens, réellement, ont le bon comportement.
Merci beaucoup, Smarty.
Merci à vous, merci à vous. Et merci aussi à toutes ces personnes-là ici au Burkina qui sont engagées et qui le font bénévolement, qui sont sur le terrain, qui ne cessent au jour le jour de donner de la voix, de donner de leur image pour que véritablement l'attitude change et que les gens prennent conscience. Merci à vous.
Nous retrouvons notre invité Mouhamadou Fadel Diop. Vous venez d'écouter le rappeur burkinabé Smarty qui a sorti un titre pour sensibiliser sur les gestes barrières. Qu'en pensez-vous des rappeurs, des figures artistiques qui se mettent en avant pour pouvoir sensibiliser les populations?
C'est une excellente chose. C'est totalement dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il est vrai que beaucoup de chefs d'État sont mis en avant dans les médias, etc., pour inciter les jeunes à respecter les gestes barrières, etc. Mais il est aussi important que les leaders de notre communauté, d'où qu'ils puissent venir, puissent aussi se lancer dans cette dynamique-là et montrer aux gens, les inspirer et les montrer comment il faut faire, comment il faut réagir durant cette situation particulière.
Merci beaucoup Mouhamadou Fadel Diop d'avoir participé à l'émission et d'être resté avec nous durant toute l'émission. Je rappelle que vous êtes chargé de la recherche au think tank de l'Afrique de l'Ouest, Wati à Dakar. Merci à vous.
Merci à vous.
Et très bonne journée à vous aussi. L'émission touche à sa fin. Merci de continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, Twitter. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer des messages via WhatsApp si vous avez envie de pousser un coup de gueule, parler d'un sujet qui vous intéresse ou tout simplement nous encourager, pourquoi pas. Le numéro, c'est le 0033 647 740 742. Merci à toute l'équipe qui a fabriqué cette émission. Surtout, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières contre le coronavirus, se laver les mains, tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir. Chose très importante, respecter la distanciation sociale. Vos grands-parents, limitez les contacts physiques avec eux parce que vous pouvez leur transmettre le virus sans le savoir. Si vous êtes porteur sain, qu'on dit aussi asymptomatique, c'est-à-dire avoir le virus sans tomber malade. Demain est un autre jour et il sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Kaoumbé.
C'est reparti en cette période de